sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Ils étaient en train de parler avec aujourd'hui et demain, les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. D'où viennent les contes et les récits ? Comment sont-ils nés et ont-ils traversé le temps pour arriver jusqu'à nous ? De quelle étoffe les contes sont-ils cousus ? D'où nous vient ce besoin de ces façons de dire ? Avec quelles questions ces récits essaient-ils de faire la conversation ? Pour qui ? Pourquoi ? À quoi ça sert de raconter des histoires qui ne sont même pas vraies ? Au tout début, c'était la nuit tout le temps. On n'y voyait rien du tout et les hommes et les femmes vivaient en un point du monde tout mêlé, mélangé, empaqueté. On n'y voyait rien du tout, c'était la nuit. Et comme le temps ne passait pas, on s'ennuyait un peu, alors on inventait des jeux un peu idiots, des jeux tactiles, des... À qui le nez ? À qui le pied ? À qui les cheveux ? À qui le... Et puis des mélis mélangés, des loups touche-touche, des touches écoulées, des touches-moi pas, des mélis mélos qu'on démêlait en se flanquant des grands coups, et on poussait des cris parce que ça faisait mal, puis on riait aussi parce que c'était drôle quand même, c'était comme ça, au tout début, et c'était bien comme ça. Et puis un jour, si on peut parler de jour, lui et elle, au cours d'un jeu, ils se sont touchés un peu plus que d'habitude et ils ont trouvé ça pas mal. Alors ils ont continué et ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils se sont détachés du groupe. Et c'était tellement mieux qu'ils sont partis se fabriquer une petite cabane à eux, ils se sont installés là et c'était juste parfait. Alors les autres, ils ont fait comme eux. Ils se sont séparés et c'est comme ça que tout a commencé à se séparer. Et c'est là, dans le secret de leur cabane, que lui et elle, ils ont eu un fils. C'était il y a très longtemps, mais ça n'a pas beaucoup changé. À l'époque, déjà, la naissance d'un bébé nouveau-né dans la vie d'un homme et d'une femme, c'était quelque chose. C'était comme une lampe posée là au milieu de leur vie, ce petit-là. Ils se sont mis à l'aimer. Et ils lui ont fabriqué un petit lit juste au-dessus de leur lit. Quand ils allaient se coucher, ils écoutaient la respiration du petit. Ça faisait comme le bruit de la mer. C'était il y a très longtemps, mais ça n'a pas beaucoup changé. À cette époque-là, déjà, la mère a tout donné, peau et lait et sein et soin, et le petit, il a bien grandi. Il fait ses premiers pas, il dit ses premiers mots. Il est déjà en train de sortir de l'enfance. Tiens, regarde-moi ça, il est en pleine crise d'obsolescence, il tient pas debout. Il se cogne partout, il faut qu'il secoue, c'est pas possible, ce petit-là, il tiendra pas, il y a son fil de vie qui est en train de s'étirer et de s'élimer, ça s'étire et tire et chlac. La mère est sortie et elle a poussé un hurlement. Tous les autres sont arrivés, ils l'ont entouré. Ils l'ont bercé, choyé, ils ont pris le petit, ils l'ont porté dans son lit. Et puis là, on s'est mêlé, mélangé encore une fois pour se confondre dans la peine. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et puis on a pleuré. Longtemps. C'est difficile de dire combien de temps on pleure quand c'est tout le temps la nuit et qu'il n'y a rien pour ponctuer le temps, mais on a pleuré longtemps. Et quand on a terminé, tout le monde est parti, la mère a raccompagné tout le monde dehors, elle était épuisée. Elle est rentrée dans la cabane. Et c'est là qu'elle a vu. Pour la première fois, ses yeux voyaient. Il y avait une petite lueur diaphane dans la cabane. Elle s'est approchée, ça venait du lit du petit. Son fils était là, tout lumineux à peine. Il la regardait, il souriait. « Maman, ben oui, c'est moi. Je suis pas partie, je peux pas. Vous arrêtez pas de pleurer, je suis tout mouillée, je peux pas partir comme ça. Alors ben, je vais rester là. Arrête de pleurer, je vais rester avec vous. Je serai comme une lampe posée dans vos vies. » C'était vrai, il était là et il souriait. Alors la mère l'a tiré par la main, elle est sortie, elle a poussé un cri, puis tous ils ont entouré le fils et ils se sont vus pour la première fois. Ben, ils n'avaient pas du tout imaginé qu'ils étaient comme ça. Lui, là, avec ses poils qui lui couvraient toute la figure, elle, sans ses dents, on avait l'impression que sa bouche, c'était comme un anus de phoque. Puis elle, là, toute grosse, avec ses gros seins qui lui remontaient sous le menton, on voyait pas trop comment elle faisait pour respirer. Quand même, ils étaient un peu bizarres. Ça les a fait rire, puis bah, du coup, ça leur a donné envie de faire la fête, et ça, ils savaient faire. Ils sont allés ouvrir toutes leurs réserves, et ils ont sorti tout ce qu'ils avaient. De la viande, du lait, des œufs. Et ils ont mangé, mangé, mangé. Il est des nôtres. Il a bu son lait comme les autres. Bah oui, mais le fils, lui, là, il reste là, il mange rien. Hé, reste pas là à nous regarder, faut que tu manges. On a failli te perdre une première fois, faut que tu manges, sinon tu vas pas tenir. Ouais, mais bon, je sais pas comment vous faites pour manger autant. Moi, ça me donne pas très envie. Hein? Bah, nous, pour manger, on aime ce qu'on mange, en fait. Ouais, mais comment vous faites ça? Bon, c'est pas compliqué. Il suffit de se souvenir un peu, tu vois, c'est de la mémoire de délice qui remonte du ventre jusqu'à la tête et juste faut se souvenir et faut aimer pour manger. Alors le fils, il a essayé, il s'est concentré, il s'est rappelé le souvenir du poisson qui frétille, s'est mis à remonter le long de sa colonne vertébrale, c'était bien. Et puis la douceur opaque de l'œuf dans le creux de sa main, c'était bon. Et ça s'est mis à ouvrir dans son ventre un boulevard de faim, il s'est mis à tout dévorer. Les viandes, les laits, les poissons, c'était parti, ça pouvait plus s'arrêter. Il a mangé, 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 épuisé toutes les réserves, il fallait aller trouver autre chose. Alors on est parti chasser, par-ci, par-là, on a ramené de quoi lui remplir sa goule. Et lui, il a mangé, c'est rempli, mais on n'allait pas pouvoir continuer, il fallait que ça s'arrête, il allait tout nous manger. Le père est allé le trouver, il a dit « Là, faut que tu partes, hein. Tu manges trop, t'es trop grand, on n'y arrivera pas. Allez, tiens, prends ce manteau en plume de corbeau et file, va trouver ton chemin, trouve ta lumière. » Alors le fils a enfilé son manteau en plume de corbeau, il est devenu corbeau. Il a tapé sur le sol et il a décollé. A déployé ses ailes et traversé le paysage, il sentait sous ses plumes le vent qui soufflait, c'était bien. Il sentait sous son ventre l'océan qu'il était en train de traverser, c'était fort. Il a trouvé un trou dans le ciel, il est passé de l'autre côté, a basculé, et là il a senti la cime des arbres qui caressaient le duvet de son ventre, il a descendu. Le long des cimes des arbres, il a plongé, a suivi un filet de rivière, est arrivé le long du fil de rivière sur la neige et pac ! S'est cogné contre quelque chose de dur, quelque chose de creux, c'était pas un arbre ça, c'était une cabane. À l'intérieur, il y avait le bruit d'un homme. Le bruit de sa fille. L'homme était en train de chanter. Toute la lumière du monde. Toute la lumière du monde. Toute la lumière du monde. Je l'ai enfermée. Toute la lumière du monde. Toute la lumière du monde. Toute la lumière du monde. Je l'ai enfermée. Dans un coffre. Dans un coffre. dans un coffre, dans un coffre. Ma fille est là, je ne la vois pas. Ma fille est là, je ne la vois pas. Toute la lumière du monde, toute la lumière du monde. Mais c'était ça qu'il était venu chercher, Corbeau. Il lui fallait toute cette lumière-là. Il a commencé à tourner autour de la cabane. Il trouvait pas l'entrée, alors il est resté à un coin. Il a plus bougé. La porte s'est ouverte. Il y a quelqu'un qui sort de la cabane. C'est la fille. Il la reconnaît tout de suite. Son pas est tout léger comme une plume. Alors, à tout petit pas de Corbeau dans la neige, il la suit. Il arrive au bord de la rivière, elle a soif. Elle plonge ses mains dans l'eau, il se concentre, se rassemble, rassemble tous ses pouvoirs et se transforme en aiguille de cyprès et plonge dans l'eau, plonge dans les mains de la fille, elle remonte l'aiguille et elle avale l'eau, avale l'aiguille qui glisse, glisse et se dépose dans le ventre de la fille tout au fond. Elle rentre à la cabane et ferme la porte. À l'intérieur de son ventre, l'aiguille commence à se transformer. Doucement, ça bouge, ça pousse, ça tire, mais le père ne voit rien. Ça tire, et ça se transforme en tout petit qui veut venir, mais le père ne voit rien. Ça tire, tire sur le ventre, ça cogne, ça tourbillonne, ça racacole, mais le père ne voit rien. Ça pousse, pousse la fille à mal, elle pousse, elle crie, et là, le petit sort, il crie, et là, le père quand même comprend qu'il est devenu grand-père. C'était il y a très longtemps, mais ça n'a pas beaucoup changé. L'arrivée d'un petit dans la vie d'un grand-père, c'était comme une lampe posée là. Il se met à aimer ce petit-là et il lui apprend tout ce qu'il sait, à chanter toutes les chansons qu'il connaît, il lui raconte toutes les histoires qu'il connaît. Le petit profite bien. Tiens, il fait ses premiers pas. Le voilà qui dit ses premiers mots, grand-père. C'est quoi ce coffre ?
Quel coffre ?
Le coffre que tu chantes tout le temps. Touche, c'est chaud, c'est là. Non, non, touche pas ça, il n'y a pas de coffre. Viens là, on va jouer. Non, grand-père, on va l'ouvrir. Allez, tu l'ouvres avec moi. Non, 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 il n'y a rien à ouvrir. Viens par là. Allez, grand-père, on l'ouvre tous les deux. Un, deux, trois. Il y en a un deuxième en dessous, c'est encore plus chaud. Allez, arrête ça. Non, on l'ouvre. Un, deux, trois. Il y en a encore un, on l'ouvre. 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 Ah! C'est le dernier, il est bouillant, tu peux mettre tes mains, tu sens. Oui, ben faut pas toucher, c'est dangereux, ça va brûler. Non, on va l'ouvrir ensemble avec moi, s'il te plaît. Allez, un, deux, trois, ah ! Et le coffre s'est ouvert et la lumière a jailli. Et là, le grand-père a vu son petit-fils, il était pas beau. Son petit-fils, c'était un corbeau, il y avait des plumes qui étaient en train de percer sa peau et puis un gros bec qui lui perçait la goule. Et Corbeau, il a piqué sur la lumière et... piquer la lumière et crac, 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 dans la cheminée, il est passé. Il a traversé avec la lumière et parti dans le ciel, a traversé le trou dans le ciel et il a plongé. Et là, il a promené la lumière du monde sur le monde comme une lampe. Et il en a révélé tous les mystères, les vallées, les rivières, chaque coin sombre. Et tous les oiseaux du monde ont attrapé la lumière en éclats. Ils ont voulu s'approcher, chacun en voulait son petit morceau et les oiseaux ont commencé à tournoyer autour de Corbeau. Lui, il a lâché la lumière, elle s'est glissée dans le ciel et tombée, s'est éclatée sur les rochers et en mille morceaux, les éclats sont remontés. Un morceau plus gros est monté en même temps. Les étoiles et la lune se sont formées dans le ciel. Et puis le plus gros morceau est monté lourdement et là, le soleil a offert au monde son tout premier matin. Les oiseaux qui assistaient au spectacle se sont mis à improviser leur toute première symphonie d'oiseaux pour un monde en train de naître. Et les hommes et les femmes qui étaient là et assistaient au spectacle ont découvert le monde pour la toute première fois. Alors, ils se sont mis à marcher, à parcourir le monde, dépasser les frontières, migrer.
J'ai tout dit, tout dit, dit, tout dit, tout dit.
tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit.
J'ai attrapé ce continuit sur le bout de ma langue. Je l'ai chauffé dans mes deux dents, sur mon souffle, je l'ai rendu. Je le remets sous la pierre pour le suivant.
Que çıktanyar seveni leyli deyar loylu dayar loy 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 cennete gönderseler aleylinin ne de kınalım ne de belalım ne de neni anne leyli de kınalım ne de belalım ne de
thank you. ou le conte, un art populaire, un très vieil outil de société, un récit qui fascine et qui traverse le temps, on peut remonter très loin. Certains chercheurs voient dans l'art pariétal les figurations de nos premiers mythes fondateurs. Le conte, c'est l'outil du collectif. Il passe de bouche à oreille, il dessine les contours d'une société, il structure les relations, il ritualise les passages, il permet de tutoyer la mort et de visiter toutes les grandes questions qui nous animent en profondeur depuis toujours. C'est du manger pour cœur, comme on dit à La Réunion. Les contes ne sont pas là pour endormir les petits, ils s'occupent plutôt de nous tenir, nous, les grands, bien réveillés et de nous mettre en travail, comme le ferait un rêve. Les contes n'informent pas, ils transforment. Ils ne sont pas nés avec Perrault, qui a créé ses œuvres littéraires à partir de contes qui étaient déjà du patrimoine oral avant qu'il ne les fixe. Les contes n'ont pas d'auteur. Ils passent par le conteur pour trouver un chemin chaque fois nouveau à se dire, et ils sont tous sujets à variantes. En 1910, le Finlandais Antti Aarne, fasciné par leur diversité autant que par leurs similitudes, va les étudier. Il va les comparer, les classer comme on classerait des graines. Rejoint par l'Américain Stis Thompson, ils vont établir une typologie internationale du conte qui fait état à ce jour de 2340 contes types, tous sujets à multiples variantes. Ça fait de la matière. Certains psychanalystes qui se sont penchés sur la matière des contes ont émis l'hypothèse qu'ils seraient issus des rêves, racontés individuellement puis pris en charge collectivement. Les contes dessinent un autre monde, au contour inversé. Un monde dans lequel on s'en vient plonger cul par-dessus tête, et bien au-delà de l'enfance. Mais à quoi servent-ils ? Mille et une nuits durant, Scheherazade racontera pour sauver les femmes de la tyrannie du roi Shahriar, mais surtout, par un jeu d'emboîtement, de récits épiques, de contes de sagesse, de chants et de poésie, elle va rendre ce roi à son humanité. Calmant par le partage des récits les élans de toute puissance morbide qui l'animait. Ainsi, on peut dire que le conte rend plus humain. Mais à quoi ça sert de raconter des histoires qui sont même pas vraies ? C'est la question que pose le jeune Haroun à son père conteur dans le roman « Haroun et la mère des histoires » qu'a écrit Salman Rushdie en 1993 pour son fils, tandis que lui-même est exilé et cloîtré. Condamné par une fatwa, suite à sa parution des versets sataniques. À quoi ça sert de raconter des histoires qui sont même pas vraies ? La question du fils va créer une rupture chez le père et le priver de l'inspiration et du goût de raconter. Dans le roman de Salman Rushdie, le jeune Haroun va devoir retrouver la source des récits et combattre ceux qui entendent étouffer le pouvoir de raconter. Il va trouver la source, d'où partent tous les contes, et où ils se mêlent et s'influencent. Et nettoyant ce qui pollue ses courants, il va redonner à son père la liberté des sources et le plaisir limpide de la raconter. Dans les années 90, à Pougny-Hérisson, en Deux-Sèvres, le conteur Yannick Jolin crée avec tout un collectif le nombril du monde. La pierre de granit dessine dans le paysage des bribes du corps d'une géante. Et on y raconte qu'en son nombril auraient émergé tous les récits qui parcourent le monde et que, de même qu'en cette mer des histoires de Salman Rushdie, les contes s'y retrouvent, s'y régénèrent, s'y influencent et y repartent tout neufs. Venus de très loin, porteurs de nos questions de toujours, ces contes et ces récits n'ont de cesse de se transformer, de s'ajuster. Ils palpitent de vie et se posent en miroir pour trouver à nous en dire sur nous-mêmes et sur l'état de notre monde, porteur de nos mondes enfouis. Le conte nous bouscule, bouscule nos perceptions et nos croyances pour mieux nous toucher et pour nous permettre de voir plus clair et plus profond. Car comme on le dit au nombril du monde à Pougny-Hérisson et à l'instar de Saint Thomas, Il suffit de le croire pour le voir. Pour finir, quelques rendez-vous, spectacles, conférences, événements, lectures autour de l'oralité et pas seulement. Ainsi, à Dieu le Fit, les 25 et 26 septembre prochains, se tiendra l'événement « Les murs ne servent à rien » à la Halle. Pendant 2 jours, ce seront des projections de films, des lectures autour des questions de la migration. Le même week-end, à Alès, au CMLO, Centre méditerranéen de littérature orale, du 22 au 27 septembre donc, se tiendront les 16e rencontres de septembre du CMLO. La thématique de cette année, du merveilleux à la collecte des mémoires, la place du récit oral dans le maintien du lien social. 5 jours durant se succéderont tables rondes, conférences, balades contées, spectacles, et puis les conteurs envahiront la ville d'Alès et ses quartiers. Enfin, je vous conseille le dernier numéro de la revue trimestrielle La Grande Oreille, qui est dédiée aux arts du récit et paru en juillet dernier. Le numéro de ce mois-ci, enfin de ce trimestre-ci, rassemble conteurs, anthropologues, chercheurs et linguistes qui se penchent sur la question de la parole, son origine, ses ancrages, son importance, encore plus cruciale en ces temps qui chahutent nos libertés de dire. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radiola pour une prochaine émission.